13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan cette semaine sur cette jeunesse qui se désespère avec cette épidémie qui n'en finit pas. Des étudiants qui vivent en mode Zoom, nous dira Virginie Riva, qui ont parfois recours à l'aide alimentaire faute de pouvoir se payer à manger parce qu'ils ont perdu leur petit boulot, ne veulent rien dire à leur famille. Reportage saisissant de Romain Oquet. Théo Manval nous emmènera au cœur d'un cours de danse clandestin en plein Paris. Nous irons aux Pays-Bas. Pourquoi 3 nuits d'émeute cette semaine? Est-ce la réaction à la mise en place d'un couvre-feu? Une première dans ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas si simple, nous dira Isabelle Horry. Elle rentre de Rotterdam. Nous irons au cœur de la vallée de la Roya. Les dernières pluies torrentielles ont réveillé chez les habitants l'angoisse d'être à nouveau coupés du monde. Frédéric Michel nous le dira, la reconstruction s'annonce encore longue. Et puis un grand bol d'air pour finir tout terrain. Les skippers du Vendée Globe célébrés en héros pour leur retour au Sable d'Olonne. Et Jean Le Cam qui a mis le feu au chenal sous les yeux de Corinne Boulou. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Ils ont l'impression d'être les sacrifiés de cette épidémie qui n'en finit pas. Pas facile, effectivement, d'avoir 20 ans en 2021. Et ces jeunes, avec en première ligne les étudiants, sont sûrement ceux qui redoutent le plus un troisième confinement. Un tiers des 18-24 ans présentent des signes de dépression. Et c'est à eux que les reporters d'Europe 1 ont donné la parole ces dernières semaines, à l'image de Charlotte.
La première fois qu'on a été confinés, j'avais 17 ans. Je vais avoir 19 ans dans 2 mois. J'ai l'impression d'avoir perdu, en fait, quasiment 2 ans de ma vie. De perdre mes plus belles années aussi, parce qu'on en a toujours parlé. La vie étudiante, c'est les amis, c'est les amours, c'est les soirées. Et en fait, nous, c'est les larmes, le Xanax et les Zooms. Il y en a qui en viennent à lancer des messages dans le groupe de classe en disant « ce soir, je me suicide » ou alors « faut que quelqu'un me parle parce que là, ça va pas du tout, on sait pas où on va ». Donc, je me sens pas du tout prête à un troisième confinement et on est beaucoup à pas être prêt pour un troisième confinement.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Spécialiste éducation d'Europe 1, on vient d'entendre le désarroi de Charlotte au micro de Lionel Gougelot. C'était il y a quelques jours et elle est loin d'être seule. C'est ça qui vous marque depuis le début de cette crise?
Oui, Fabienne, et écoutez, même je vous dirais que c'est carrément déprimant de suivre ce dossier, tant les acteurs, enseignants comme étudiants, on vient de l'entendre, sont abattus avec le sentiment, et vous le disiez, d'être les sacrifiés de cette épidémie. Beaucoup, que ce soit les enseignants d'ailleurs ou les étudiants, en veulent à leur ministre de ne pas réussir à imposer des arbitrages pour une réouverture plus franche des facs.
Et ce désarroi, vous avez pu le mesurer aussi en vous rendant dans une résidence étudiante du 20e arrondissement à Paris. Là, leur chambre est devenue leur lieu de vie.
Oui, il faut imaginer déjà une résidence où il n'y a aucune vie. La salle commune en bas, où d'habitude il peut y avoir des activités associatives notamment, est désespérément vide. On ne croise que des étudiants qui vont à la laverie ou qui sortent faire leurs courses. Le reste du temps, ils sont derrière la porte de leur chambre qui fait 18 mètres carrés. Ils suivent des cours via Zoom. Et j'ai particulièrement en tête Wiem qui m'a montré sa chambre. Elle avait fait une jolie déco avec une guirlande lumineuse, une plante et pourtant rien n'y faisait.
Mon appartement, donc c'est ça. Avec donc où dormir et où cuisiner dans le même endroit, où manger aussi, où regarder la télé et où travailler dans la même pièce. C'est très petit pour rester confiné. On a beau tout faire, se motiver. J'ai acheté ce tapis récemment pour essayer de créer du changement, des nouveaux aussi draps de lit, pour essayer de garder le moral, mais c'est très 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 compliqué. Au tout début, ça m'est arrivé de complètement me mettre par terre et pleurer tout le temps parce que je me sentais un peu trop seule. Ouais.
Je me sens très seule, dit William. C'est pour ça que le Crous a mis en place des référents. Et est-ce que ça suffit?
Alors, c'est un dispositif qui a été créé au mois de novembre avec l'idée de donner du travail à des étudiants qui ont perdu leur job et qui peuvent ainsi toucher quelques centaines d'euros par mois en se rendant utile auprès de leurs camarades dans leur résidence universitaire. Concrètement, ils sont chargés de repérer les étudiants qui sont isolés, qui pourraient aller mal. Dans les faits, je me suis rendu compte sur le terrain, là où j'étais, que tous les étudiants ne connaissaient pas encore leur référent. Et puis, il y a un autre problème, c'est que le propre de la spirale de l'isolement, m'ont confié certains, c'est que plus on s'isole, plus on se replie sur soi, on a des idées noires et on n'appelle même plus à l'aide.
Alors, témoignage aussi de ce qu'on a pu entendre sur Europe 1, le reportage de Pierre Herbulot. Lui, il a suivi un étudiant qui va à la fac alors que c'est pourtant interdit, tout simplement pour se mettre en condition de pouvoir étudier.
Là, nous sommes dans ma chambre, avec salle de bain comprise, 9 mètres carrés. Je suis déjà un peu claustrophobe, mais là, vraiment, je le ressens. Enfermé entre 4 murs, tout ça.
Les cours depuis sa chambre de bonne l'ont fait suffoquer.
J'ai fait des crises d'angoisse, des crises de nerfs, tout ça, à répétition. Je ne peux pas. C'est pas vivable.
Cet étudiant en STAPS a fini par inventer une parade.
Rez-de-chaussée.
Chaque matin, Lucas fait semblant. 1h15 de transport direction la fac pour y suivre ses cours de la journée sur son ordinateur.
Je fais comme s'il n'y avait pas de Covid, pas rien du tout, pas de confinement, pas de couvre-feu. Je vais à la fac le matin, je rentre de la fac le soir, je vais dans un bâtiment et je me trouve en code bureau. Quand on vient en présentiel, inconsciemment, on se met en condition de travail. Alors que quand on reste chez nous, on n'a pas cette phase. On sort de la douche, on est déjà au bureau.
L'étudiant risque une amende pour non-respect du couvre-feu, mais c'est le seul moyen, dit-il, d'assurer son avenir et de préserver sa santé mentale.
Autre témoignage de cette détresse des étudiants, ceux qui n'ont plus de quoi s'acheter à manger et qui ont de plus en plus recours à l'aide alimentaire. Bonjour Romain Noquet.
Bonjour Fabienne.
Vous nous avez rejoint en studio, vous avez assisté jeudi soir à une de ces distributions dans le quartier de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, dans le 13e. Et vous avez vraiment été frappée, vous m'avez dit, par le monde qui attendait.
Oui, exactement. En fait, je n'étais même pas encore arrivée au point de rendez-vous que je voyais déjà la file qui serpentait dans les rues adjacentes. Et vraiment, j'ai marché de longues minutes en longeant cette rangée d'étudiants qui attendaient, les uns derrière les autres à la nuit tombée, dans un silence vraiment pesant. Alors bien sûr, la précarité étudiante, elle existait avant même la crise sanitaire. Mais là, de voir autant de jeunes qui tous ont besoin d'aide pour tout simplement se nourrir, eh bien, ça donnait vraiment une autre force, une autre ampleur au sujet.
Eh bien, on va écouter votre reportage.
La file s'étire sur plusieurs centaines de mètres, que des étudiants, 450 jeunes qui patientent sur le trottoir. Les visages sont fermés, regards gênés.
Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Si je prends pas ces deux paniers par semaine, je ne mange pas.
Deux paniers que Marie, en master, vient chercher depuis 4 mois après avoir perdu ses deux jobs.
C'est difficile. Je viens d'une famille qui, en temps normal, a les moyens. Et la crise a fait que je ne les ai plus, ces moyens-là. Pour l'instant, je n'ai pas d'aide autre que celle-ci.
La plupart sont venus seuls. La nuit est déjà tombée quand Amy se glisse discrètement dans la rangée d'étudiants.
J'en parle à personne, je prends le trajet, les gens me suivent. Ils me disent « tu t'arrêtes pas là ?» Je dis « non, je continue ». Pourquoi tu continues? Bah parce que j'ai un rendez-vous médical où je trouve des excuses pour continuer. Parce que je n'ose pas en parler, j'ai peur qu'on ait pitié de moi. Dans ma classe, il y a zéro boursier, je suis la seule boursière.
Salut, je peux prendre ta carte étudiante,
oui,
s'il te plaît?
Merci. Pâte au lardon, poulet.
Sur les tables, des pyramides de yaourt, des fruits, des produits d'hygiène aussi. Un colis de 6 kilos que Marius plonge soulagé dans son sac.
Vous allez tenir combien de temps avec tout ça?
Bien 3-4 jours au moins. Sinon, je vais faire des petites poêlées, tout ça, ça va faire plaisir. C'est bien aussi de cuisiner aussi. On essaie d'aller de l'avant et de voir le bon dans tout ça.
Une compote pour le dessert et du pain.
2 heures de distribution en continu pour Julien et la vingtaine de bénévoles.
Tout est parti, là, il n'y a plus rien. Les tables sont quasiment vides. Il y a 2,5 tonnes de denrées qui sont parties en distribution.
Bonjour, comment ça va?
Cette voix, c'est celle de la psychologue, dernier stand du circuit. Un sourire, un regard attentionné et Manon décide de s'arrêter.
C'est pas juste remplir son sac avec de la nourriture. J'ai vraiment besoin d'avoir cette oreille qui est tendue. Je passe ma journée seule devant mes cours. Donc venir ici, c'est une vraie bouffée d'oxygène.
Si vous avez besoin, il y a des numéros de téléphone d'appel de psy.
Ces numéros, aussi précieux que leur panier, presque tous les notent avant de sortir. Au cas où on soit reconfiné, soupire l'un d'eux. Car, dit-il, cette fois, j'ai peur de ne pas tenir.
J'ai peur de ne pas tenir... Phrase très forte de ces étudiants. Ils sont qui, ceux qui ont recours à cette aide alimentaire?
Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. En tout cas, ils ont quand même un point commun, c'est-à-dire que pratiquement tous avaient perdu leur job étudiant. Durant la collecte, d'abord, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants étrangers. C'est évidemment les plus isolés, les premiers impactés par cette crise. Mais ce qui était plus inattendu, c'est qu'il y avait aussi des jeunes issus de familles plutôt aisées. C'est le cas de Marie qu'on vient d'entendre dans le reportage. Et voilà, à cause du Covid, en fait, ces familles, elles n'ont plus les mêmes moyens financiers qu'avant. Et ces étudiants, eh bien, ils n'osent pas parler de leur situation à leurs parents pour ne pas les inquiéter plus que ça, en fait. Et pour beaucoup, d'ailleurs, c'était la première fois qu'ils venaient à une distribution alimentaire.
Vous parliez de gêne, d'ailleurs, pour témoigner.
Exactement. Dans la file d'attente, je l'ai vraiment ressenti, puisque peu d'étudiants acceptaient de me répondre et les autres préféraient que je ne cite pas leur nom. Donc la prise de contact a vraiment été difficile. Et cette gêne, c'est aussi parce que, en fait, il y avait beaucoup d'étudiants en master, doctorat, qui avaient l'habitude, en fait, depuis plusieurs années, d'être indépendants financièrement, de se débrouiller pour bien vivre. Et là, l'une de ces étudiantes me l'a dit, jamais je n'aurais pensé me retrouver dans cette file d'attente un jour. Et vraiment, pour certains, cette distribution s'était vécue comme un aveu d'échec.
Merci beaucoup, Romane Auquet. On vous retrouvera dans un instant dans une autre séquence de Tout Terrain. On vient d'entendre la détresse de ces étudiants, Virginie Riva. Quelles réponses ont été apportées face à ces situations d'urgence ?
Alors, la mesure la plus forte, c'est que le gouvernement a généralisé les repas à 1 euro. En gros, ça n'était avant accessible qu'aux boursiers. Et là, ça l'est aussi pour les non-boursiers. 2 repas par jour qu'il faut aller chercher à son centre Crous s'il est ouvert. Mardi, par exemple, il y a eu une distribution de 70 000 repas, dont 20 000 à des non-boursiers.
On entend aussi dans le reportage la détresse psychologique.
Oui, là, le gouvernement a mis en place un chèque santé mentale. En gros, il est en cours de définition, mais c'est de l'argent avancé pour aller consulter un psy.
Alors vous restez avec moi Virginie Riva, on va voir dans un instant que ce que redoutent de nombreux profs, c'est une nouvelle année blanche avec des étudiants qui décrochent, le niveau qui baisse, d'autant que faire revenir au compte-gouttes les étudiants, on l'a dit, sur site, est un vrai casse-tête.
Europe 1, Tout Terrain. Fabienne Lemoyle.
Retour dans Tout Terrain sur la détresse qu'on vient d'entendre, qui gagne certains étudiants avec cette pandémie qui n'en finit pas. Toujours avec moi Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Est-ce qu'on a mesuré, Virginie, si beaucoup d'étudiants ont décroché ?
Alors, quand vous échangez avec les professeurs d'université, ils sont catastrophés par ça, justement. Les examens se sont souvent mal passés et ils ont peur que ça ait un impact sur le retour des étudiants au deuxième semestre, comme nous l'expliquait d'ailleurs cette professeure de littérature à l'université de Cergy, Hélène Manuelian.
On a évidemment des craintes sur le niveau parce que ce qu'on a pu observer pendant les examens, c'est des étudiants qui sortent de la salle plus tôt, qui rendent des copies blanches, voire certains qui pleurent devant les copies. On a déjà un peu perdu des étudiants, mais les résultats risquent de décourager beaucoup de monde, oui. Sur un amphi de 150, on en perd 30, ça fait un étudiant sur 5. Là, je pense qu'on a plutôt perdu un étudiant sur 3 aux inscriptions. Parce que, en fait, au deuxième semestre, les étudiants doivent s'inscrire dans les cours qu'ils choisissent. C'est comme ça qu'on voit si on en a perdu ou pas. On a un problème de niveau de connaissance. On ne peut pas forcément aller aussi vite que ce qu'on fait en présentiel habituellement.
Et puis Virginie, ce qui est important d'ajouter, c'est que tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne parce que la règle n'est pas la même dans le supérieur partout.
Oui, effectivement. Les premières années sont particulièrement perdues, elles, car elles ne comprennent pas forcément les attendus du travail universitaire. Mais certains, eux, sont en présentiel en 100%. C'est le cas de certaines classes prépa, qui continuent de fonctionner quasiment normalement, parce qu'ils sont en petit effectif sur des classes de 30 ou des promotions pour des BTS de 50 à 80. Mais si vous êtes en droit, en socio, en psycho, ça n'est pas la même chose. Et il y a d'autres formations, par exemple, comme les écoles d'ingénieurs, où il y a plus de TP, ou encore les facs de sciences. Et là, de ce point de vue-là, les étudiants sont également mieux lotis.
Alors, parmi les mesures annoncées par le président, effectivement, on verra ce qui se passe avec l'évolution de la crise sanitaire. C'est le retour, normalement, des étudiants à la fac avec une jauge à 20%. En tout cas, on va l'entendre, c'était un vrai casse-tête à organiser pour les présidents de fac, comme pour celui de l'université de Bordeaux-Montaigne, Lionel Larrey.
Les consignes sont contradictoires. Les L1 peuvent revenir à 50%, les étudiants fragiles peuvent revenir par groupe de 10, mais la circulaire reçue nous indique qu'il faut faire revenir tous les étudiants à 20%. Mais un changement d'emploi du temps dans une université de 18 000 étudiants, ça ne se fait pas comme ça. C'est un véritable casse-tête.
Voilà, un vrai casse-tête, j'avoue que je n'ai pas tout compris moi non plus sur l'organisation. C'est le cas pour beaucoup de présidents de fac, ce casse-tête.
Oui Fabienne, pour vous résumer et pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça sera plus clair après, mais ce que demande le président de la République, c'est que 50% des premières années en TD, plus 20% pour tous les niveaux, face 20% de la jauge dans les universités. Donc c'est un défi aux règles de la mathématique. Et on comprend pourquoi les présidents d'université sont assez fatigués. D'autant qu'il lui-même le disait, ce président de Bordeaux, c'est que les règles ont changé durant tout le mois de décembre, où d'abord on parlait d'identifier les étudiants les plus fragiles, et des règles qui ont rechangé en janvier et qui risquent de rechanger.
Alors Virginie, on a vu que pour l'exécutif, il y a un vrai souci de ne pas négliger cette détresse. En témoigne cet échange entre un youtubeur, Gaspard G, qui s'est fait le porte-parole des étudiants dans une vidéo devenue virale avec largement plus de 2 millions de vues maintenant, et à qui Jean Castex a téléphoné.
J'ai regardé ta vidéo.
Oui.
Et voilà, je voulais te dire qu'elle m'a beaucoup ému. Qu'est-ce que je peux faire de plus et de mieux pour aider, si tu vois ?
Ces trois annonces qui ont été faites par le président Macron et le gouvernement, dont l'une d'entre elles est très attendue, un retour en classe une journée par semaine. À quel moment c'était légitime de communiquer là-dessus, alors qu'on est à l'aube, très certainement, d'un troisième reconfinement ?
Comment il faut regarder cet échange, ce besoin effectivement de répondre à cette détresse, Virginie ?
Écoutez, cette vidéo de Gaspard Jay est tellement forte, hein, comme tous les témoignages que nous venons d'écouter. D'ailleurs, que le gouvernement n'est pas sourd, hein. Il répond aux interpellations, il propose des mesures d'urgence, mais le malaise vient du fait que les étudiants sont enfermés, et ça n'est pas prêt de changer. En gros, l'exécutif se donnait 2 semaines, hein, pour évaluer l'impact du retour des premières années en TD et aviser pour la suite, pour un retour progressif de toutes les promos. Mais là, clairement, si nous allons vers des mesures de confinement serrées, les étudiants ont très peu d'espoir, hein, quant à une reprise possible. Et malheureusement, Gaspard Jay pourrait bien avoir raison.
Merci beaucoup, Virginie Riva, de nous avoir accompagnés dans cette longue séquence. Et c'était important d'entendre ces témoignages recueillis par tous les reporters d'Europe 1, Lionel Gougelot, Pierre Herbulot et Roman Oquet. Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Let's go. 5, 6, 7.
Hey ! Et oui, vous entendez bien de la musique des danseurs. La scène se déroulait il y a quelques jours en plein Paris.
Plus fort, plus fort !
Car après vous avoir plongé au cœur d'une soirée clandestine et d'un restaurant clandestin, eh bien les reporters d'Europe 1 vous ont emmené cette semaine au cœur d'un cours de danse clandestin. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et c'est donc vous qui avez assisté à cette séance un peu particulière.
Oui, un cours de hip-hop avec une dizaine de participants dans un vrai studio de danse avec un vrai professeur. Ça a duré une heure lundi soir de 18h30 à 19h30.
Et comme on travaille en collectif au reportage d'Europe 1, Roman Oquet, c'est donc vous qui avez trouvé ce lieu, comme vous aviez déjà trouvé d'ailleurs l'adresse du restaurant clandestin et de la soirée clandestine dont nous avons raconté il y a quelques semaines les coulisses dans tout terrain. Racontez-nous cette fois comment ça s'est passé.
Alors justement Fabienne, vous le disiez, à la différence des restaurants clandestins, là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les salles de sport ont le droit d'ouvrir pour accueillir des professionnels, des personnes dont le sport est leur métier. Donc là, ce qu'il fallait trouver, c'était non pas une salle de sport ouverte, mais une salle de sport qui accueillait des amateurs, ce qui est donc illégal.
Et ça a été compliqué à trouver ou c'est plus répandu qu'on l'imagine ?
Alors là, dans ce cas de figure, pas vraiment, puisque en fait, le gérant du studio de danse où nous sommes allés avait témoigné dans la presse quelques jours plus tôt en donnant son nom et son prénom. Et puis sur Twitter, j'ai fait quelques recherches avant d'y aller. Il n'est pas très compliqué de trouver des témoignages de gérants de salles de sport qui ont décidé de rouvrir, même si vous vous en doutez, c'est difficile à quantifier.
Et donc c'est là que vous vous êtes rendu, Théo, on ne va pas dire où c'est précisément, hein, cette semaine, c'était par contre juste après le couvre-feu.
Voilà, je me suis inscrit comme à n'importe quel cours, hein, d'une période hors Covid sur une application dans l'après-midi et à 18h j'ai pris le métro, donc effectivement après l'heure du couvre-feu pour arriver à l'adresse indiquée devant la porte d'un immeuble parisien.
Eh bien justement, on pousse la porte et on vous suit sur la piste de danse.
Alors il est 18h20, on a déjà dépassé l'heure du couvre-feu, il y a encore un peu de monde dans la rue et je serai juste à l'heure pour le début du cours. Ce cours de hip-hop, j'ai pu le réserver sur internet. Dans la salle, face à un grand miroir, on est une dizaine, plutôt des jeunes, face au professeur. Avec la consigne d'arriver juste pour le début du cours, pour ne pas attirer l'œil devant l'immeuble. Une fois en place, on est à moins d'un mètre les uns des autres, mais la choré, c'est non masqué. À côté de moi, cette jeune fille vient toutes les semaines.
J'adore danser, donc
je profite du moment parce que après si jamais on devait être reconfiné, c'est aussi un peu un échappatoire parce que quand je danse, bah, je pense plus au Covid. Je dirais pas que c'est vital ou quoi que je pourrais en mourir, mais c'est vraiment important pour moi. Après je peux comprendre que pour des mesures sanitaires, peut-être c'est vraiment important, mais ça me fait du bien, physiquement et mentalement.
Et elle semble en avoir besoin, ma voisine étudiante, plutôt douée, même si on est loin d'être tous des danseurs pros, hein, autorisés, eux, à répéter sur attestation. D'ailleurs, je n'en ai pas, moi, d'attestation, mais semble-t-il, ça peut s'arranger.
La semaine prochaine, si tu viens, envoie-moi ça sur le groupe WhatsApp et eux, ils vont t'envoyer l'attestation. Ok, comme ça, tu la rempliras et une disquette, quoi.
Déjà, ils nous ont envoyé une attestation par mail. C'est une attestation du studio qui dit que c'est un déplacement pour tournage de vidéo d'une émission.
Professionnel.
Oui, voilà.
Moi qui maîtrise à peine 5 ou 6 mouvements après une heure à me déhancher. Allez, vient le moment de se quitter. La bise n'a pas totalement disparu ce soir, à la différence des contrôles de police.
Voilà, et on rappelle hein, d'ailleurs que le hip-hop, effectivement, c'est une discipline en démonstration, je crois, pour les JO Paris 2024.
Hein,
exactement. Question pratique, les participants, ils portent le masque ou pas ?
Alors non, ils le portent quand ils arrivent, mais évidemment pas pendant la séance, hein, puisque c'est sportif quand même, on bouge beaucoup. Il faut savoir que le décret qui encadre la pratique sportive autorisée précise bien que le port du masque et la distance d'un mètre ne sont pas obligatoires pour les gens, Roman le disait, qui ont l'autorisation de pratiquer ces sports collectifs, c'est-à-dire les professionnels de la danse ou d'autres sports. Sauf que là, vous l'avez entendu,
il n'y avait que des amateurs ce soir.
Oui, je suis moi-même qui me suis inscrit sur une application. Personne n'a vérifié si j'étais professionnel ou pas. Évidemment, je ne le suis pas. Le studio propose même, on l'a entendu, une attestation complètement mensongère. Donc, en théorie, non seulement on n'a pas à être là tous ensemble, mais on n'a surtout pas à enlever le masque.
Qu'est-ce qui vous a marqué ?
La facilité vraiment de s'inscrire à ce cours. À aucun moment, le propriétaire ne vérifie qui vous êtes. Et puis après, la jeunesse, effectivement, des participants. Oui, il y avait même une collégienne qui venait là avec la bénédiction de ses parents parce que ça lui fait du bien, ça la calme, que c'est une respiration pour elle.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, effectivement, de cette perspective d'un reconfinement. Qu'est-ce qui motive ceux qui viennent, justement ? C'est un ras-le-bol, une fatigue ou carrément une volonté de défier l'interdit ?
On sent en tout cas un public de passionnés de la danse, des gens qui prenaient déjà des cours avant à un rythme très soutenu et qui, en effet, en ont marre des restrictions, marre de ne plus avoir cette soupape, on va dire, pour décompresser. Et surtout, vous le disiez, la peur que ça disparaisse complètement si un troisième confinement, comme on le redoute, est bien mis en place.
Alors, que répond le propriétaire des lieux ?
Alors, Roman le disait, il a témoigné dans la presse, il ne se cache pas du fait de rester ouvert pour des raisons surtout de survie financière. On ne va pas donner son nom pour ne pas le mettre en danger, mais écoutez ce qu'il nous explique.
La seule chose qui me sauve aujourd'hui, c'est les locations de salles, qui me permet de payer mes charges. Malgré tout, j'étais obligé de me sauver, je ne peux pas faire autrement. Mon aide, c'est 1500 euros et mes charges fixes sont de 6000 euros. Si j'avais fermé tout de suite, si j'avais écouté, je serais déjà dehors parce que moi, mon appartement est lié à mon bail commercial. Si demain, je dois fermer mon bail, mon appartement, je suis à la rue. Et je n'ai pas le droit au chômage. Donc, je n'ai pas le choix. Vraiment, je n'ai pas le choix.
Le témoignage qu'on entend, c'est celui que vous avez recueilli, Roman. Avant, vous dites qu'effectivement, son nom apparaissait dans la presse, donc vous l'avez contacté. On va expliquer pourquoi, après, le reportage a été fait dans d'autres conditions. Qu'est-ce qu'il vous a dit aussi autrement comme argument ?
Alors justement, en fait, ce qu'il m'a expliqué longuement, c'est qu'au-delà des arguments financiers qu'on vient d'entendre, il se défend, en tout cas au micro, de ne louer ces deux studios qu'à des danseurs professionnels, ce qui est donc légal. Mais quand moi, j'étais donc sur place, donc pas en micro caché, contrairement à Théo, c'est que je me suis très vite rendu compte que cette ligne de défense professionnelle contre amateur, elle n'était pas très claire. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, le gérant a pris dès le départ quelques précautions. Il fallait que sa chargée de communication soit présente pour chacune des interviews.
Les professionnels, ils sont comme moi, ils ont besoin de payer leur loyer aussi, donc ils ont leur clientèle. Et aujourd'hui, je propose des locations de salles. Donc les professionnels viennent, ils contactent leurs clients, ils proposent des cours. Voilà. Donc apparemment, s'ils sont professionnels, ils ont le droit, mais d'autres non. Donc on ne sait pas trop.
Intervenir, excusez-moi.
Ouais.
Tu n'organises pas de cours. Tu loues ta salle et ce sont des professeurs qui organisent des cours avec une jauge bien précise. Hein, ouais. D'accord. Avant, tu organisais des cours. C'est toi qui organisais des plannings de cours. Mais
j'organise quelques cours.
Oui.
Voilà, on entend le recadrage effectivement de la directrice de communication. Voilà, vous entendez qu'il n'admet pas du tout la réalité constatée dans le reportage, que les cours sont ouverts à des amateurs, qui fournit même des attestations de complaisance. Donc c'est pour ça qu'on a dû en passer par le reportage en micro caché. C'était pas du tout notre première option. Roman est vraiment allé faire l'interview pour faire un sujet. Mais on s'est vite rendu compte que c'était la seule solution pour découvrir finalement la vérité.
Et la réalité de ce qui se passait effectivement dans ces cours. Et on voit aussi à travers le témoignage de ce gérant toute la difficulté financière
qui est véridique et très importante
autour de ces professionnels qui se retrouvent avec des aides pas toujours très conséquentes. Merci beaucoup Théo Manval et Roman Hoquet.
Merci à vous.
Beaucoup.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Mais que s'est-il passé cette semaine aux Pays-Bas et de quoi témoigne et comment expliquer les trois nuits de violence qu'ont connues plusieurs villes du pays ?
Ils ont cassé la vitre en jetant une pierre. Le plus douloureux, c'est que j'ai tout vu derrière mon écran grâce à la caméra de sécurité. J'étais sans voix.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, mais vous couvrez aussi régulièrement pour nous l'actualité aux Pays-Bas. On vient d'entendre un très court extrait d'une habitante de Rotterdam qui réagit à votre micro, choquée visiblement. Et vous allez notamment nous expliquer qu'on n'a pas du tout l'habitude aux Pays-Bas de vivre des scènes de violence urbaine. Mais surtout qu'on a très vite pensé que ces émeutes étaient peut-être l'expression d'un ras-le-bol, d'un rejet des restrictions liées à la pandémie, avec la mise en place notamment du couvre-feu. Et on va voir avec vous que c'est une lecture qui a été peut-être un peu trop rapide et que ce n'est pas ce que vous avez retrouvé sur le terrain. Mais d'abord Isabelle, vous êtes allée où précisément ?
Alors j'étais à Rotterdam, la grande ville portuaire des Pays-Bas, dans les quartiers sud, alors précisément dans la Beierlandse-Laan. Dans la nuit de lundi à mardi, cette longue rue, c'était le lieu le plus tendu selon les médias néerlandais, avec plus de 50 arrestations sur place, des affrontements aussi entre des émeutiers et la police.
Et quand vous arrivez, vous découvrez quoi ?
Alors j'arrive tôt le mardi matin vers 6h30, le quartier est absolument désert, il pleut des cordes, il fait nuit noire, il n'y a pas de présence policière visible. Alors je tourne un peu dans cette rue qui est longue, hein, pour chercher des endroits où les dégâts sont visibles. Je finis par trouver le commissariat qui est barricadé derrière des planches en bois devant la porte, ses vitres sont brisées, visiblement il y a eu des jets de pierre. Au fil des heures, alors la rue se réveille et je vois qu'il y a une petite dizaine de commerces qui ont été attaqués et pillés. Un supermarché, un bijoutier, une esthéticienne, un fast-food. Mais voilà, le matin, les autres commerces rouvrent comme si de rien n'était. Je croise des personnes âgées qui vont faire leurs courses, des mamans avec des poussettes. Tous sont vraiment choqués et surpris de ce qui s'est passé. Écoutez Bosrine et Abraham que j'ai rencontrés ce matin-là.
Ce n'est pas une protestation ce qu'ils ont fait. Ces jeunes ont fait une émeute, ils ont pillé les magasins. J'ai aussi entendu que dans une autre ville, un hôpital a été attaqué avec des pierres. Ça ne peut pas se passer. Quel manque de respect. On ne s'attend pas à ça aux Pays-Bas.
Ce n'étaient pas des manifestants, c'était des casseurs. C'est une honte. Ce sont deux groupes différents, ceux qui sont frustrés par la situation et ceux qui veulent faire des émeutes. Aux Pays-Bas, on veut toujours privilégier le dialogue, mais là, il est temps de prendre des mesures.
Voilà, alors on entend ces habitants de Rotterdam qui disent « ce ne sont pas des manifestants » parce qu'on a très vite dit que ce qui se passait aux Pays-Bas depuis dimanche, je crois, c'était la première révolte contre les restrictions de circulation avec le couvre-feu, signe peut-être d'une révolte populaire contre l'État. Et en fait, ce que vous avez vu sur le terrain, c'était pas forcément des gilets jaunes anti-Covid.
Non, alors pas selon les habitants du quartier qu'on vient d'entendre. C'était aussi le sentiment des confrères néerlandais qui étaient sur place depuis plusieurs jours. Le mardi soir, d'ailleurs, une fois que la nuit est tombée, j'ai vu des petits groupes de jeunes, jeans noirs, sweat noir à capuche, souvent des ados ou de jeunes adultes. Il semblait là, en attente et pas très coordonné. Mardi soir, la police, elle était là en masse et elle a procédé à des arrestations préventives. Le maire de Rotterdam avait aussi demandé aux parents de garder les enfants chez eux. Et finalement, il n'y a pas eu de nouvelle flambée de violence.
Alors, d'où est venu, selon vous, le malentendu? Il y a eu des violences ailleurs, d'ailleurs, aux Pays-Bas, pas forcément de même nature.
Alors, ça reste quand même assez confus. Ça commence le samedi, le jour de l'entrée en vigueur du couvre-feu. Il y a de la violence dans une petite ville très religieuse au nord du pays. Un centre de dépistage anti-Covid est brûlé. Le dimanche, à Amsterdam, il y avait un appel à se rassembler sur l'esplanade des musées, la grande esplanade d'Amsterdam, pour protester contre les restrictions anti-Covid et le couvre-feu en place depuis le week-end. Là, il y a un gros millier de personnes qui viennent et à la fin de la manifestation, il y a des affrontements. Mais en parallèle, au sud des Pays-Bas, dans une autre ville, la ville d'Eindhoven, l'extrême droite, et notamment le mouvement anti-islam Pegida, qui est très connu en Allemagne, avait lancé des appels à se rassembler. Et là, la tension monte très fort avec la police, il y a des dégâts. Donc le dimanche, on peut dire que c'est des manifestations qui ont un lien avec le couvre-feu. Mais c'est ensuite que ça devient plus compliqué. La nuit suivante, les incidents semblent plutôt le fait de jeunes peu politisés, sans vraie revendication. Et en tout cas, le gouvernement est resté ferme. Il a dit qu'il ne changerait rien aux mesures mises en place. Écoutez le Premier ministre Mark Rutte.
On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui a pris ces gens? Ce n'est pas une manifestation, c'est de la violence criminelle. Je suis convaincu que 99% des Néerlandais respectent les mesures et 99% respectent le couvre-feu. Parce que nous comprenons que c'est ensemble que nous vaincrons le virus. Ce à quoi on assiste, c'est tout sauf un combat pour la liberté. Nous ne prenons pas toutes ces mesures par plaisir. C'est pour lutter contre le virus. C'est le virus qui, en ce moment, réduit notre liberté.
Ce qu'il faut dire, c'est que les Pays-Bas connaissent rarement des émeutes et surtout qu'il n'y a jamais eu de couvre-feu dans ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est vraiment très important de comprendre ça. Ce pays n'a pas l'habitude des violences urbaines. Le contrôle social y est fort. Il y a une vraie tradition de liberté individuelle et de responsabilité. D'ailleurs, c'était frappant de voir les supporters des clubs de foot se mobiliser, par exemple, très vite pour patrouiller dans les rues et aider la police. À Rotterdam, il y a aussi des volontaires qui ont nettoyé la rue. Et vous avez raison, c'est la première fois qu'un couvre-feu était instauré depuis plus de 70 ans. Alors, bien sûr, la population en a assez des restrictions, il y a des frustrations, mais cette mesure, ce couvre-feu, c'est très soutenu par quasiment 80% des Néerlandais, selon un sondage.
Pour terminer, Isabelle, plus globalement, on en est où dans le pays de cette épidémie? Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire? Puisqu'on s'interroge toujours, est-ce que les commerces, les écoles sont ouvertes, fermées?
Alors au début, les Pays-Bas ont tenté une approche très libérale, très néerlandaise, donc pas de contraintes, responsabilisation de la population, mais voilà, ça n'a pas suffi et peu à peu, ils ont durci les mesures. La deuxième vague les a frappés durement, ils ont peur, comme tout le monde, des nouveaux variants et donc ils ont mis en place des restrictions, comme partout ailleurs, parfois plus dures qu'en France même. Les écoles, par exemple, sont fermées depuis le 15 décembre et elles vont le rester au minimum jusqu'au 7 février. Restaurants, commerces non essentiels, tout ça c'est fermé. Les Néerlandais peuvent seulement accueillir une personne par jour chez eux et les voyages sont fortement déconseillés. Il faut un test négatif pour entrer dans le pays. Le couvre-feu, lui, il est en place jusqu'au 10 février. Alors évidemment, tout ça, ça crée des frustrations dans une population très attachée à sa liberté. Mais quand même, maintenant, sur le plan sanitaire, sur place, la situation est en train de s'améliorer.
Merci beaucoup Isabelle Horry. Et je note d'ailleurs qu'on vous retrouvera demain dans les Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer qui reviendra plus longuement sur les mouvements de contestation en Europe. Merci à vous.
À bientôt.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
La vallée de la Roya a de nouveau été touchée par de fortes pluies la semaine dernière avec plusieurs villages du haut de la vallée inaccessibles et la peur des habitants de se retrouver une nouvelle fois coupés du monde.
À chaque pluie, on a peur. À chaque pluie, on se dit on ne va plus avoir de route. Il nous faudrait vraiment des ponts un peu costauds, quoi.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, ça a provoqué quoi concrètement ces nouvelles pluies ?
Ben Fabienne, comme le craignaient les habitants de la Roya, hein, ces pluies diluviennes tombées vendredi dernier ont emporté un certain nombre d'ouvrages provisoires. Alors rappelez-vous, le maire de Tende, on l'a entendu plusieurs fois ces dernières semaines sur Europe 1 et dans cette émission, le maire de Tende prévenait avec l'hiver, on va être fait comme des rats. La pluie, la fonte des neiges sur un terrain déjà très fragilisé par la tempête Alex ont en effet vite fait de tout emporter, coupant du monde une nouvelle fois les habitants de ce haut de vallée. Alors un exemple, hein, ici la plupart des adolescents vont au lycée à Nice, à une quarantaine de kilomètres. Ils n'ont pas pu rentrer ce week-end dans leur famille. Alors ça fait beaucoup pour tous ces habitants déjà fortement éprouvés.
Et donc mardi, vous êtes retourné sur place à Tende, au fond de la vallée. Est-ce qu'on y accède plus facilement que lors de votre dernier reportage ? Et est-ce que le paysage a changé ?
Oui, on y accède un tout petit peu plus facilement. Ça avance, mais doucement, trop doucement pour beaucoup d'habitants. J'ai pu constater en faisant plusieurs fois la route que des portions avaient été goudronnées, des ponts provisoires installés. Dès dimanche d'ailleurs, hein, on a réparé les passages à gué emportés par les dernières fortes pluies. J'ai parcouru cette route départementale d'une dizaine de kilomètres, route ouverte seulement trois fois par jour, donc pour permettre aux gens de descendre ou de monter. Alors ce qui était frappant, c'est que dans mon véhicule, j'avais l'impression de traverser un nuage de poussière, hein, d'être dans le brouillard, un brouillard jaune épais, car des dizaines d'engins de travaux publics et des grappes d'ouvriers sont à la manœuvre. Mais quatre mois après, la plaie reste béante. Vous roulez sur une piste et tout à coup, vous avez un dévers de plusieurs mètres. Tout ce qui a été charrié par la Roya est encore très visible au milieu des roches tombées dans le lit.
Donc effectivement, des dégâts encore très marquants. Et ce qui vous a marqué aussi, c'est que ces pluies ont ravivé l'angoisse des habitants. Et on va entendre d'ailleurs ces témoignages que vous avez recueillis.
Ce week-end, on a eu peur quand même. Il y a eu des passages à gué qui sont partis.
On a pris l'eau qui est tombée, plus la neige qui a été fondue par cette eau. Et ça a fait une crue. Mais on était convaincus que ça allait partir.
C'est pas rassurant parce que va y avoir la fonte des neiges, ça risque de se reproduire.
Voilà, hein, vous l'entendez, les habitants ont peur de voir le scénario se répéter jusqu'au printemps. Et il y a aussi de l'angoisse. Hein. Certains vivent avec le stress de voir à nouveau la montagne éventrée par les flots. J'ai rencontré Marie-Jeanne, elle attendait son expert en assurance. Sa maison a été partiellement détruite. Le chalet voisin, lui, a disparu. Elle est actuellement hébergée chez les proches et ne sait pas si, avec son mari, elle pourra revenir vivre dans sa maison.
Ah, moi, c'est une angoisse permanente. Je suis traumatisée. Moi, c'est la deuxième fois que j'évacue pour une inondation. Donc là, maintenant, j'en ai ras-le-bol. On n'a pas envie de partir parce qu'on est d'ici. Mais bon, est-ce que je peux aller réhabiter là alors que j'ai la rivière qui va me venir dessus ? Moi, je ne dors plus.
Et à la peur, hein, l'angoisse, il faut ajouter la complexité de vivre aujourd'hui dans ce haut de vallée balafré. Et comme je vous le disais, hein, quand même difficile d'accès.
Compliqué entre la route, le fait qu'il n'y ait pas d'épicerie, il y a le boucher, on peut faire du dépannage, mais ça s'arrête là. Et sinon, il faut descendre avec les horaires de la route, ce qui est compliqué.
On se sent prisonnier. On n'a que la poste qui nous livre des colis, mais si vous voulez faire une autre commande, il n'y a pas de transporteur qui vienne, dû à la route. Et le quotidien est très dur.
Et vous avez l'impression d'être aidé ?
Pas assez. Ou alors ça va passer vite, peut-être.
Alors, on entend ces habitants qui se sentent parfois un peu oubliés. Vous avez rencontré aussi le maire de Tende, on l'avait entendu très remonté hein, dans tout terrain. Quelles sont ses interrogations aujourd'hui ?
Oui, ça fait 4 mois qu'il vit l'enfer avec ses administrés. Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende, est exaspéré aujourd'hui. Il sait que la reconstruction sera longue, mais il espère plus de moyens et surtout, il attend plus que des solutions provisoires.
Il faut maintenant construire des ponts, plus de passages à gué, qu'on puisse commencer à revivre normalement. Des ouvriers, il y en a, mais il faudrait mettre des moyens colossaux. En plus, on se heurte à des problèmes administratifs avec la SNCF. Vous avez vu, jusqu'à la mi-mars, on n'aura pas un train, et ça devient vraiment pénible. On n'arrive pas à faire venir des trains italiens alors qu'ils sont là à portée à une demi-heure. Tout est compliqué, tout est compliqué.
Le train, le fameux train, je me souviens quand Emmanuel Macron est allé dans la vallée de la Roya, les habitants l'avaient vraiment interpellé pour que la ligne fonctionne. Si on entend bien le maire, pour lui, la SNCF ne joue pas le jeu.
Ah oui, il est très très en colère hein, contre la SNCF. Et puis il y aurait une possibilité par l'Italie d'acheminer aussi du fret ou de faire un peu sortir les habitants de la vallée. Mais il faut se mettre d'accord avec un opérateur. Bon, ça fait plus de 4 mois, donc ça fait long.
Alors vous avez aussi rencontré sur place celui qui est chargé par l'État de suivre l'évolution du chantier de la reconstruction. Qu'est-ce qu'il vous a répondu justement à ces attentes des habitants ?
Alors ce préfet délégué à la reconstruction, il s'appelle Xavier Pelletier, il arrive de Lyon et il reprend les mots prononcés par le président de la République le 7 octobre dernier. Bah, on prendra le temps pour reconstruire de manière durable, pas question de brûler les étapes. C'est ce que me disait Xavier Pelletier que j'ai rencontré sur le terrain.
La reconstruction, elle ne sera pas instantanée, elle prendra énormément de temps. On est dans un territoire de montagne. Il faut s'assurer que quand on engagera cette reconstruction, qu'on puisse le faire dans des bonnes conditions, avec une résilience forte. Donc effectivement, au quotidien, c'est compliqué pour eux. Le seul axe de circulation, c'est cette route départementale 6204. Elle est raccommodée, hein. C'est un alternat de routes, de pistes. Il ne faut pas oublier qu'entre libre dans la vallée et tendre, on a 90 ruptures de voie.
On l'a compris, ça va prendre du temps parce qu'on va le rappeler, 3 vallées ont été endommagées, la Vésubie, la Tinée et la Roya où vous étiez. C'est quand même la plus grande catastrophe, vous me disiez, en termes d'infrastructure depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, imaginez, le coût des travaux est estimé à 1,5 milliard d'euros. Et il faudra donc beaucoup de temps avant de retrouver le visage que l'on connaissait à ces vallées, avant de retrouver ici dans la Roya, la vallée des merveilles que l'on aimait arpenter. Il faudra aussi beaucoup de temps aux habitants pour se reconstruire. Rappelons qu'il y a eu plus de 20 morts et disparus, des dizaines d'habitations détruites, des cimetières rayés de la carte, des souffrances intimes qui prendront du temps à s'effacer, ce n'est pas le mot, mais à s'atténuer.
Merci beaucoup Frédéric Michel.
Merci à vous, au revoir.
Et on continuera à suivre l'évolution des travaux dans cette vallée tant éprouvée.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Direction pour terminer les Sables d'Olonne avec ce final époustouflant du Vendée Globe. 80 jours de mer pour les premiers et 2h30 d'écart à peine entre les deux premiers à l'arrivée. Et l'explosion de joie du vainqueur Yannick Bestaven à son arrivée au ponton.
J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude au total à cette fête, ces lumières. Ouais, c'est un rêve d'enfant.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Rédactrice en chef adjointe du service des sports d'Europe 1, toujours au Sable d'Olonne. Mais quelle ambiance, quelle finale et quelle nuit blanche j'imagine.
Oui, c'est vrai que là, on y a eu le droit, hein, ces arrivées de nuit. Alors, c'est une particularité des courses au large. Alors, je vous avouerai que lorsque les navigateurs ont suffisamment d'avance, la plupart du temps, ils ralentissent hein, pour attendre le lever du jour afin de faire une belle arrivée, de belles images. Mais sur cette édition, avec un sprint final aussi intense, il n'était évidemment pas question de lever le pied pour quiconque, surtout avec le jeu des compensations hein, pour le sauvetage de Kevin Escoffier, accordé à deux des navigateurs, Yannick Bestaven et Boris Herman, engagés dans la bagarre finale avec Charlie Dalin, Louis Burton et dans une moindre mesure Thomas Ruyant, qui lui n'avait plus vraiment d'espoir pour le podium. Et du coup, eh bien, nous avons eu des arrivées en rafale, 8 en 24 heures, entre mercredi soir et jeudi soir, sans compter le 9e Benjamin Dutreux, arrivé hier après-midi.
Et c'est vraiment du jamais vu aussi pour vous ce final, cette régate, vous qui êtes quand même une habituée du Vendée Globe.
Ah oui, là je dois dire que je ne suis pas près d'oublier cette édition incroyable en tout point. J'avais déjà assisté à des mano à mano, notamment il y a 8 ans, où François Gabart s'impose avec à peine 3 heures d'écart devant Armel Lecléache. Nous avons eu de beaux duels dans la dernière ligne droite aussi avec Armel Lecléache lors de la précédente édition, avec Alex Thompson, ou même en remontant plus loin, Vincent Rioux, vainqueur en 2005, après une belle bagarre avec Jean Le Cam. Et puis là, les compensations en temps aussi ont eu un rôle particulier hein, parce qu'elles ont eu un impact sur l'ordre d'arrivée. Le premier sur la ligne mercredi soir, c'est Charlie Dalin,
mais
il est aujourd'hui à la deuxième place du podium. Voilà, on l'écoute.
Ça fait du bien d'avoir franchi la ligne d'arrivée en tête, d'avoir les honneurs de la ligne. Voilà, avant le départ, je disais que je voulais arriver avant le second, c'est chose faite. Après, voilà, y a des compensations qui rentrent en jeu, mais après, c'est normal, c'est tout à fait normal. Si la direction de course m'avait demandé de me dérouter pour aller chercher quelqu'un, même en tête, je l'aurais fait sans hésiter, vraiment une seconde. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, c'est normal.
Voilà, Charlie Dalin, fair play, hein, c'est la solidarité des gens de mer qui prévaut. Le grand vainqueur, c'est donc bien Yannick Bestaven, arrivé cinquième sur la ligne, mais qui au final possède 2h30 d'avance, vous l'avez dit, sur Charlie Dalin et plus de 6h30 sur Louis Burton. Des écarts incroyables hein, à l'échelle d'un tour du monde d'environ 40 000 km.
Et une ambiance étonnante quand même pour cause de Covid. On avait déjà parlé lors du début de l'épreuve et là, effectivement, en arrivant, quand même beaucoup moins de monde autour des pontons.
Oui, on est loin de la communion habituelle avec des dizaines de milliers de personnes qui se massent, notamment le long du chenal. Pour autant, ça c'est habituel, les voiliers ne peuvent pas rentrer dans le chenal à marée basse. Et donc certains ont dû patienter pour rejoindre Port Olona. Mais les longues glissades de nuit sous un feu d'artifice pour le vainqueur Yannick Bestaven ou au son de Johnny dans la nuit de jeudi à vendredi pour Jean Le Cam, l'écoutez en ce moment, avait de quoi... Non mais sincèrement, ça avait de quoi donner des frissons. On en a eu. Bon, c'était en pleine nuit aussi, mais à 2h du matin, 300 bénévoles sablés, c'était quand même donné rendez-vous le long de ce chenal, posté tous les 4 mètres, flambeau à la main, comme Christine qui a bravé le vent et l'humidité ambiante pour saluer, dans cette nuit de jeudi à vendredi, l'un des monuments du Vendée Globe.
Oh ben on attend Jean Le Cam, notre Jean, notre roi Jean Le Cam. On ne peut pas le laisser rentrer tout seul, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous faites en pleine nuit, un flambeau à la main le long du chenal?
Ah ben moi je voulais voir le vieux loup de mer rentrer dans sa tanière.
La préfecture avait donné son autorisation, bien évidemment, hein, Fabienne, malgré le couvre-feu, pour accueillir, comme il se doit, ceux qui rentrent d'un long périple de 80 jours en mer.
Justement, qu'est-ce que vous avez appris de leur course que vous ne soupçonniez pas, qui ne vous avait pas forcément raconté?
Ben Jean Le Cam, hein, notamment, il a attendu d'avoir franchi la ligne pour révéler que la coque de son bateau partait par endroits en lambeaux. Il a fait un demi-tour du monde, la boule au ventre, se demandant si ses réparations allaient tenir le choc.
J'ai failli m'arrêter en Nouvelle-Zélande, j'ai failli m'arrêter au Cap Horn. Chaque jour, chaque vague, je me disais, est-ce que ça va tenir? J'avais tellement peur que ça a cassé deux fois. J'ai fait deux réparations.
Pourquoi Jean Le Cam a caché en fait, qu'il avait eu ses déboires?
En fait, il a souhaité ne pas le dire avant l'arrivée pour éviter toute polémique au cas où il y a un souci et que certains lui reprochent de ne pas s'être arrêté alors qu'il savait très bien que son bateau pouvait avoir une importante voie d'eau. Bon, finalement, il est arrivé
à
bon port, comme on dit. Mmh. Et c'est mieux comme ça, à 61 ans. Chapeau, Monsieur Le Cam. Je pense que les Sables d'Olonne peuvent lui faire une statue.
Eh bien, justement, on va terminer avec lui, avec cet arrivé, parce que je crois que c'est ça qui vous a marqué. Hein. Enfin, un petit coup de Johnny pour terminer. Hein. C'est l'image qui vous reste quand même. Hein.
Ouais, et puis celle de Charlie Dalin, le premier sur la ligne, et celle de Yannick Bestaven, grand vainqueur. À 48 ans, une consécration évidemment pour lui.
Merci beaucoup Corinne Boulou de nous avoir fait vivre ces émotions pendant toute la semaine. Merci à Laurent Pellet pour la technique qui vous a accompagné pendant toute cette mission. Merci encore.
Merci à vous. Ils sont encore plusieurs en mer, 16 encore en course.
Eh ben, on les suivra avec vous. Merci Corinne. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Virginie Rivard, Romain Oquet, Isabelle Horry, Frédéric Michel et à l'instant Corinne Boulou. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant à 14h, clap. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui on a décidé de s'intéresser au cinéma d'Éric Toledano et Olivier Nakache, alors qu'ils viennent de sortir leur toute première série sur Arte. On va voir comment, à partir de sujets sociétaux, ils arrivent à nous faire rire et à nous divertir. Et puis à 14h30, c'est François Morel qui répondra à notre questionnaire « Les films de ma vie ».
Merci Mathieu et à tout de suite.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.